Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart. Nous poursuivons notre cycle sur l'histoire entre la France et l'Algérie. Aujourd'hui, je reçois l'historienne Karima Diresh pour réfléchir à la possibilité d'une réconciliation ou pas lorsque l'histoire, en l'occurrence ici celle du pays qui fut colonisé, est manipulée, instrumentalisée, voire même kidnappée à des fins politiques. Bonjour Karima Diresh.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste du Maghreb, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les reciter, mais voici votre dernière contribution à cette revue « Mouvement » édité par les éditions La Découverte, « Hirak, Algérie en révolution », où vous revenez sur cette contestation sans précédent en Algérie. Les présidents français et algériens se sont promis de réconcilier les mémoires meurtries par la colonisation et la guerre. Vous êtes à l'aise avec cette idée de réconcilier la France et l'Algérie ?
Je ne peux qu'approuver la démarche. C'est une démarche qui est plutôt intéressante, mais qui revient régulièrement, en fait, entre les chefs d'État. C'est en fait une espèce de serpent de mer. On ne sait pas trop bien par quel bout prendre cette affaire de réconciliation des mémoires, d'une histoire partagée, d'une histoire croisée. C'est toujours extrêmement compliqué parce qu'en fait, il faut savoir de quelle histoire on parle, en fait. Et l'histoire vue de l'Algérie ou l'histoire vue de la France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça donne lieu effectivement à des interrogations, ne serait-ce qu'en termes pratiques. Quelles victimes doit-on honorer ? Est-ce qu'on peut avoir des monuments en commun ? Est-ce qu'on peut s'entendre sur un récit qui pourrait faire entendre la pluralité des voix, des groupes sociaux qui mènent aussi ces entreprises mémorielles, qu'elles soient algériennes ou qu'elles soient françaises ? Un récit donc qui puisse faire entendre toutes ces voix et qui puisse être consensuel, audible, c'est une entreprise très très difficile.
Côté algérien, quand on voit les crises diplomatiques que peut provoquer le pouvoir suite à un documentaire qui passerait sur une chaîne de télévision française qui lui déplairait, ce fut le cas récemment avec la chaîne M6, est-ce que le pouvoir vous paraît prêt à cette réconciliation ?
Je ne le pense pas, parce que je pense que d'un côté, il y a des déclarations d'intention destinées, on ne sait pas vraiment à qui. Peut-être effectivement destinée à la France, parce que l'Algérie est quand même extrêmement soucieuse de sa posture à l'international. Ça, il faut le mettre, il faut vraiment le souligner. Et je ne le crois pas vraiment, parce qu'il n'y a pas les compétences à ce niveau-là. Quand je parle de compétences, je ne parle pas de mes collègues algériens qui travaillent sur ces questions-là et qui ont des choses à dire extrêmement intéressantes. Je parle des compétences des dirigeants politiques qui décident comme ça, à coup de déclarations, d'apaiser les mémoires ou de participer en fait à l'écriture d'un récit commun sans en avoir véritablement, en fait, je crois, ni la volonté, ni les compétences, les qualifications.
Côté algérien, c'est Abdelmajid Chehri qui a été nommé, qui est le directeur des archives nationales. C'est à lui qu'incombe cette mission de relever ce défi mémoriel. Est-ce que ça vous paraît être la bonne personne quand on sait qu'Abdelmajid Chehri est un cacique du FLN, le parti libérateur devenu la courroie de transmission d'un pouvoir gérontocratique? Et puis surtout, il est connu pour verrouiller l'accès même des archives aux chercheurs, qu'ils soient algériens et puis bien évidemment aussi français, étrangers.
C'est tout à fait le prototype de l'apparatchik du FLN d'une part, et puis vraiment la caricature, je dirais, de l'oligarque en fait algérien. Et il n'est pas connu ni pour ses idées libérales sur le plan politique, ni pour une ouverture des lectures historiques concernant ce qui est supposé faire sa compétence première. C'est quelqu'un qui, quand le président Tebboune a fait cette déclaration et qu'il l'a nommé publiquement, il a fait une déclaration de son côté en disant qu'il est hors de question qu'on puisse imaginer un seul instant que qu'on laisserait la France faire tout et n'importe quoi, en fait, bon, c'est qui n'est pas en fait une expression d'un universitaire, un intellectuel qui est prêt effectivement à débattre, notamment de l'état historiographique de la question autour d'une table en fait avec des collègues français.
Vous craignez donc une nouvelle fois l'instrumentalisation du passé. On va s'y arrêter. Vous avez beaucoup travaillé sur les récits historiques depuis l'indépendance en 1962 et sur la façon dont ils ont été kidnappés par le pouvoir. Est-ce qu'on peut sortir en Algérie de cette instrumentalisation politique de l'histoire ?
Les élites dirigeantes n'en sortent pas, mais le peuple, oui, parce qu'on voit bien que avec la mobilisation citoyenne qui est le Hirak depuis donc février 2019, on voit bien à quel point la société algérienne a pris une distance absolument remarquable avec les récits d'État. Et on voit bien comment dans les mobilisations et les grandes marches, les épisodes historiques, notamment de la violence d'État ou même tout simplement l'épisode de la colonisation, est totalement repris par les manifestants pour en dire des choses extrêmement lucides, extrêmement intéressantes. Donc la discipline de l'histoire, c'est une discipline qui est donc au service du régime politique algérien depuis 62. Et donc on a en Algérie des apparatchiks de l'écriture de l'histoire officielle.
Donc quoi ? Qu'est-ce que cela sert ? Qu'est-ce qu'elle sert cette instrumentalisation ?
Elle sert tout simplement à légitimer l'autorité politique en place depuis 62. Pour revenir très très vite, on sait que c'est l'armée, l'ALN, l'armée de libération nationale et les FLN qui ont accouché, on va dire, de l'État algérien tel qu'il est encore dans sa structure opérationnelle aujourd'hui, et qu'ouvrir la possibilité à d'autres lectures de l'histoire, ne serait-ce du mouvement national, ne serait-ce de la colonisation, ne serait-ce que du projet de société, projet de politique qu'il y a eu après 62, n'est pas du tout acceptable dans la mesure où on est enfermé dans une lecture héroïque, sacrificielle, où la guerre d'Algérie, c'est la matrice en elle-même, en fait, de l'histoire algérienne, cette histoire de résistance, mais qui ne fonctionne absolument plus aujourd'hui auprès des jeunes générations. Ne serait-ce que 54% de la population algérienne à moins de 30 ans n'a jamais connu, en fait, que par la tradition orale, la question de l'épisode colonial et l'épisode de la guerre d'Algérie, et est fatigué justement de ces récits historiques parce qu'en fait, ils ne collent plus du tout au présent. Ils n'expliquent rien du présent. Ils enferment, en fait, les dirigeants algériens dans une forme d'aura révolutionnaire qui sont là pour garantir la sécurité et la stabilité du pays, alors que ces mêmes dirigeants sont connus par la population algérienne, par la société algérienne, comme étant corrompue, comme étant extrêmement autoritaire, comme ayant validé et cautionné des pratiques politiques liberticides, extrêmement autoritaristes. Donc là, il y a un hiatus énorme et une fracture, justement, entre ce que les attentes d'un récit historique, je dirais, juste, entre guillemets, le moins faux de la part de la population algérienne, et de ces élites dirigeantes qui se sont parfaitement bien reproduites, parce que même les plus jeunes sont aussi garants de ce récit héroïque, en fait, qui ne répond absolument plus du tout aux réalités de la réalité politique, historique et économique de la société algérienne.
Vous avez parlé du Hirak, ce soulèvement inédit du peuple algérien qui remonte à février 2019 et qui a couru comme ça jusqu'en mars 2020, jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 vienne mettre un frein et permette au pouvoir de redoubler de répression envers tous les militants pro-démocratie, que ce soit des activistes, des journalistes, ou encore des avocats ou de simples citoyens. Ce Hirak, ainsi qu'on le dénomme en arabe, a emporté l'un des boulonnables présidents qui était au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, et il y a eu une expression qui est beaucoup revenue dans la bouche des manifestants, qui était de dire « nous vivons une deuxième indépendance ». C'est très fort de dire cela. Comment, en tant qu'historienne, vous observez ce rappel de l'histoire et cette idée que c'est là une deuxième indépendance ?
Mais parce que ça renvoie vraiment à cette idée qui est partagée par l'ensemble des manifestants de l'indépendance confisquée. Moi, j'avais entendu les premières marches quand une espèce de de réenchantement politique qui a habité les manifestants, qui s'appropriaient la rue pour la première fois, pour un certain nombre d'entre eux, puisque la rue était un espace interdit de contestation, c'est quelque chose qui disait, mais peut-être qu'en 62 on a été libéré du joug colonial, mais là c'est l'indépendance. C'est vraiment l'idée de qu'avez-vous fait de notre indépendance? Et c'est très intéressant dans le Hirak, parce qu'on voit bien comment la violence d'État, comment elle est dénoncée en permanence, notamment par deux épisodes historiques post-indépendants qui reviennent en permanence. C'est trois épisodes, 88, le proto-printemps algérien qui a laissé espérer pendant 3 ans à la population algérienne une transition politique menée comme ils auraient aimé, comme cette société aurait aimé la mener, et qui a sombré malheureusement avec ce putsch, donc avec la fin du processus électoral du 91, et qui a fait sombrer l'Algérie dans une guerre épouvantable. Le deuxième épisode, c'est celui du printemps noir, qui est le printemps de 2001, où il y a eu une insurrection à l'échelle de la Kabylie, mais qui aurait pu se diffuser à l'échelle du territoire algérien, et qui a été enfermée complètement dans une lecture régionaliste ethnicisée, où on a étouffé la contestation politique. Et le troisième épisode, c'est celui des années 90, en disant, mais voilà, nos morts sont là. La décennie noire, nos morts sont là, et une demande de réparation. Alors, peut-être pas encore de justice transitionnelle, mais de réparation et de règlement, de reddition des comptes. Et alors, ce moment-là, pour moi qui suis historienne, c'est un moment absolument extraordinaire quand on voit ces trombinoscopes géants avec toutes les photos de ces personnes mortes, soit dans des attentats terroristes, soit exécutées physiquement, soit enfin dans des massacres collectifs, et qui jusqu'à présent ont été anonymes, à qui on rend une identité. Et en disant, maintenant, cette violence d'État telle qu'elle est, nous, on demande réparation. Sur le plan historique, c'est absolument très fort, parce qu'il y a comme une espèce à la fois de catharsis de la violence d'État, mais aussi une espèce de deuil collectif qui se fait par le bas, et où toute proposition venant du haut n'est absolument plus ni entendue, mais qui est totalement discréditée.
Violence d'État qui fait dire à beaucoup d'Algériens, après avoir été colonisés par les Français, nous voilà colonisés de l'intérieur par nos propres gouvernants. Du coup, quel travail peut-on faire sur les mémoires quand on réprime les libertés, quand on colonise de l'intérieur ?
Alors oui, c'est très intéressant, parce que là, pour le coup, dans le Hirak notamment, à chaque fois que l'épisode colonial est évoqué, parce que c'est en fait, le Hirak dit, nous renouons avec la tradition révolutionnaire qui a fait sortir la France de chez nous, c'est évident. Mais quand le Hirak rappelle les violences et les discriminations et les spoliations de la colonisation, ces spoliations et ces discriminations, elles renvoient en écho très douloureusement à celles qui ont été mises en place et pratiquées par le pouvoir d'État dit indépendant. En ce sens-là, il y a quelque chose qui se joue. Et pour le coup, là aussi, le Hirak donne des éléments d'observation et d'analyse, moi, que je trouve absolument passionnants. C'est que la question de la fracture qu'il y a entre la mémoire d'État telle qu'elle a été imposée et le récit d'État tel qu'il a été imposé et enseigné dans les écoles, parce que c'est de la vraie propagande, en fait, de toute façon. Et cette tradition orale et les mémoires qui ont été retenues et qui sont transmises, en fait, par les familles, par des canaux beaucoup plus intimistes, et qui constituent un récit parallèle, intime, qui est approprié par des millions d'Algériens, et on voit bien ce que ça a donné justement, et qui a nourri cette culture politique qui a fasciné les observateurs qui émergent justement de ces manifestations-là, où les manifestants disent, mais nous, la culture, cette culture-là, on n'est absolument pas dépolitisés, la politique, elle nous intéresse toujours, ok, on a eu la décennie noire, mais ne nous enfermez pas dans le trauma post tout ce que l'on veut, mais nous, on sait très bien à qui on a affaire au niveau de nos dirigeants. gens. Et c'est cette mémoire parallèle qui s'est transmise justement par le biais justement de l'histoire de la colonisation, de la libération, de la révolution, de cette résistance quand même. La résistance, il n'y a pas que les moujahides, je veux dire les moujahidines avec leurs médailles qui paradent officiellement. Il y a tous ceux qui ont travaillé de façon souterraine et qui n'ont rien demandé une fois que la guerre était finie. Et c'est ces récits-là qui ont été, je dirais, méthodiquement pilés, travaillés, etc. Et qui font cette culture politique qui remet en question depuis plus d'un an et demi maintenant, justement, les dirigeants politiques actuels et ce régime-là.
Dans la revue Mouvement, vous co-signez un article intitulé « Consigner le Hirak de l'expérience à l'archive », vous montrez combien le Hirak est aujourd'hui l'un des moments de l'histoire les plus racontés, les plus documentés par les Algériens. Vous montrez aussi comment il y a eu finalement, après 1962, une quasi-absence d'archives nationales, comme si le récit, l'histoire s'était arrêtée en 1962.
Oui. Alors, pour les historiens du contemporain, nous sommes quelques-uns à nous intéresser à cette Algérie post-indépendante, le problème numéro un, bien évidemment, c'est la question des archives. On ne peut absolument pas y accéder. Alors, accéder aux archives coloniales, dont un certain nombre sont aussi en Algérie, je veux dire, puisqu'il y a eu toute une politique justement de transfert d'archives de la France en Algérie. Bon, le sujet est encore extrêmement sensible et n'est absolument pas réglé dans sa totalité. Si on a envie de travailler avant 62, bon, ça va, c'est possible. Mais travailler après 62, c'est absolument impossible, de toute façon, parce que les archives d'État ne sont absolument pas accessibles ni au public ni aux chercheurs. Donc ça c'est un fait établi par un certain nombre d'entre nous. C'est pour cela que la question. Je prends l'exemple de 88, je veux dire, à part les archives de presse que nous avons eues de l'époque, pas de photos, pas d'enregistrement, absolument rien. 1980, le printemps berbère, quand même, qui a été le premier séisme de la contestation politique, qui a secoué l'État algérien indépendant. Quasiment rien. On est obligé de courir après des témoignages oraux des acteurs de l'époque qui délivrent d'ailleurs leurs témoignages de façon extrêmement parcimonieuse. Les années 90, qui a été une guerre épouvantable, où les Algériens se sont retrouvés enfermés dans les frontières nationales et on ne savait pas qui tuer qui. Là aussi, une guerre atroce, sans images et sans enregistrement. Et là, le Hirak, où tout le monde a quelque chose à dire, où on est immergé dans une matière photographique, vidéo, des témoignages dans tous les sens, des enregistrements, et jamais, jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a été autant décryptée, autant observée, autant analysée. En fait, ce que dit le Hirak de l'Algérie, ce que dit ce mouvement par le bas de l'Algérie est absolument passionnant parce qu'il est en décalage complètement des représentations extrêmement statiques que nous avions de cette société-là, qui était une société effectivement un peu immobile, un peu figée, qui est rentrée dans le libéralisme économique et le consumérisme et que finalement on n'avait pas du tout, n'était pas intéressé par le politique ou par l'action politique ou militante. Et le Hirak nous dit tout à fait le contraire, nous montre une société civile qui était inaudible jusqu'à présent et qui traverse tous les pans de la société, toute orientation politique aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, on voit des libéraux, on voit des progressistes, on voit des féministes, on voit des islamistes, etc., et qui sont tous, en fait, qui partagent tous la même revendication, c'est le changement du régime politique.
Et est-ce parce que ce Hirak raconte justement l'Algérie d'aujourd'hui qu'il est aujourd'hui autant réprimé?
Ah, moi, je le pense très, très sincèrement. Parce que dans le Hirak, ce qui était intéressant, c'est que les Algériens découvrent aussi des dirigeants algériens un peu confus, qui ne savent pas trop bien comment faire, incompétents, et puis qui découvrent aussi une Algérie qu'ils ne connaissent pas, une société qu'ils semblent découvrir. Ça, c'est intéressant aussi à l'observation.
Alors, depuis février 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, l'ancien président a été déchu. Ensuite, c'est le chef de l'état-major de l'armée qui a pris les rênes de la transition politique avant de décéder en fin d'année dernière. C'est à ce moment-là qu'un président a été élu au forceps. Il est en déficit de légitimité, Abdelmadjid Tebboune. Et là, nous sommes à quelques semaines d'un référendum sur la Constitution qui doit lui permettre à lui ainsi qu'au pouvoir dans son ensemble de se de redorer le blason. C'est un référendum qui est fixé au 1er novembre, qui est une date encore une fois très importante, très symbolique en Algérie, puisque c'est le début de la guerre d'indépendance en 1954. Là aussi, c'est encore une instrumentalisation.
De toute façon, on est dans un jeu d'instrumentalisation et de manipulation dès le début du Hirak. C'est pas nouveau, mais de toute façon, c'est un peu aussi dans l'ADN politique du régime algérien. C'est une opération cosmétique, tout simplement, du régime politique en place, et que il y a les vieux réflexes répressifs et autoritaires qui se sont réenclenchés, parce que c'est en ce sens-là qu'il y a une espèce de face-à-face suspendu entre des manifestants qui douloureusement ont été obligés de renoncer au Hirak, parce que je tiens à souligner et à rappeler que quand même c'est de la part des manifestants et des associations de la société civile que sont parties les orientations de la gestion de la crise sanitaire, puisqu'elles ne sont pas parties du haut. Ils ont continué, le gouvernement a laissé faire encore un certain nombre de marches jusqu'à ce que de l'intérieur, en interne, on dit stop, on ne marche plus. Et ça a été une décision extrêmement douloureuse qui a été prise, mais ça n'empêche absolument pas que l'élan n'a pas été cassé. C'est en ça que c'est intéressant, parce que ce qu'a donné à voir le Hirak, c'est qu'on avait une vision directe. Je dirais, on pouvait observer en direct ce qui se passait, mais il y a une réorientation, une reconfiguration de l'action politique et de l'action militante depuis que le coronavirus est invité, on va dire, dans le Hirak.
On a l'impression quand même que tout est bloqué là.
Pour l'instant, tout est bloqué dans la mesure où les réflexes autoritaires sont revenus de façon extrêmement violente, où tout manifestant qui peut exprimer quelque chose, que ce soit oralement ou que ce soit sur un réseau sur un site des réseaux sociaux est emprisonné ou est passible de l'être. Donc là, il y a quand même cette menace continuellement. Mais quand on voit ce que toute la mobilisation qui a été autour de Khaled Drareni, ce journaliste qui a été emprisonné à 2 ans de prison, ou toute la mobilisation en fait de l'ordre des avocats, même de l'ordre des magistrats, des journalistes autour de cette question-là, la contestation, elle est encore très vivante. Alors maintenant, mais comment va-t-elle se reconfigurer? Parce que c'est ça le souci. Le souci, c'était juste avant la fin du coronavirus, c'était cette question qui se posait du leadership suffisamment représentatif justement du Hirak qui pourrait dialoguer directement avec les instances politiques. Et on se posait la question, comment se fait-il que pendant plus d'un an, on arrive à avoir une mobilisation horizontale, autorégulée, en fait, extrêmement indépendante, et qui refusait à chaque fois qu'il y avait la possibilité d'une représentation, était extrêmement méfiante pour toute représentation qui pouvait se présenter. Et là, je pense qu'on va arriver à un moment où il faut bien qu'il y ait un leadership qui apparaisse, qui soit suffisamment porté par les différents segments politiques de la mobilisation et qui puissent négocier, dialoguer et puis peut-être proposer un certain nombre de choses. Mais la question du référendum, c'est une opération cosmétique, mais qui laisse dupes personne. Les Algériens ne sont pas dupes de cette opération-là. Et on verra bien aussi s'ils vont aller voter, etc. Là, la question de l'abstention, elle est importante, ou de la participation.
Votre regard croise l'Algérie, mais aussi la France. Et la France n'est pas en reste non plus en matière d'instrumentalisation du passé, de déni de l'histoire, d'une partie de l'histoire. Comment vous observez en tant qu'historienne le volontarisme du président français Emmanuel Macron de ce côté-ci de la Méditerranée, dans sa volonté donc de réconcilier la France et l'Algérie, tout en étant, tout en sombrant dans les obsessions identitaires françaises habituelles qui stigmatise justement prioritairement les descendants d'anciens colonisés.
Ben, c'est tout en contraste, hein. C'est ce qui fait aussi la personnalité du président Macron. Entre la France et l'Algérie, le souci, c'est la colonisation et la guerre d'Algérie. Bon, là, le problème. En France, pendant très très longtemps, sur ces questions de reconnaissance de violence ou tout simplement de reconnaître, de condamner l'entreprise coloniale, c'est toujours extrêmement délicat, c'est toujours très difficile et jusqu'à présent, il y a toujours des femmes politiques françaises, pour vous dire, ça fait partie de l'histoire et de la grandeur de la France. On n'a pas à s'excuser, on n'a pas à avoir honte de ce que nous avons fait. Donc, c'est quelque chose de compliqué, parce que ça, le dire dans la relation bilatérale avec l'Algérie, je ne pense pas que ce soit possible. Et pendant très très longtemps aussi, la question de la guerre d'Algérie en France, la guerre d'Algérie, c'est une défaite pour la France. C'est une défaite terrible, donc il ne s'agit pas de la célébrer. Il ne s'agit pas de la fêter d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment les points compliqués et qui, pour les historiens qui travaillent sur ces histoires croisées ou sur récits communs, on bute à chaque fois sur cette difficulté-là. Et savoir aussi que pendant très longtemps en France, il a fallu attendre la fin des années 90 pour désigner la guerre de libération nationale en Algérie comme étant une guerre d'indépendance. Il a fallu attendre 1999. Sinon, c'était jusqu'en 99 des opérations de maintien d'ordre, des événements, etc. Et que pendant très longtemps aussi, dans les manuels historiques et dans l'enseignement de l'histoire, de la guerre d'Algérie, eh bien, on a été plutôt frileux. Mais les choses ont énormément avancé, en fait, dans l'enseignement de la guerre d'Algérie, dans le dispositif, dans les institutions scolaires en France, elles ont beaucoup plus avancé qu'en Algérie. En Algérie, le chrono s'est quand même bloqué sur l'épisode de la guerre de libération et de la souffrance du peuple algérien, sans restituer cette guerre, peut-être dans un contexte plus régional, plus international, de guerre, de mouvement des indépendances de l'Afrique et de l'Asie, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Le rapport effectivement à la guerre d'Algérie et le rapport à cette entreprise coloniale de la part des pouvoirs publics n'est absolument pas encore très clair et elle est particulièrement ambiguë, notamment dans la condamnation de l'entreprise coloniale.
Merci Karima Diresh, même si tout cela n'est pas très encourageant, on espère que la France comme l'Algérie vont avancer sur cette question mémorielle. À très bientôt sur Mediapart pour un nouveau numéro de l'histoire qui s'écrit entre la France et l'Algérie.